Chapitre 22. Perpétuer les coutumes. Si Kanloum était une ville caractérisée par ses collines, Tchatchin, elle, se singularisait par ses montagnes. Même avec leurs sommets tronqués, les trois plus hautes culminaient à près de 4000 pieds. En haut de chacune étaient nichés des palais, et sur leurs versants, des maisons aux toits de tuiles multicolores brillaient sous le soleil de midi. Le palais Aesdaïchar, fief de la famille royale, trônait au sommet de la plus haute montagne, et ses reflets verts et rouges surpassaient tous les autres de leur éclat. Au-dessus de son plus grand dôme, l'étendard au cheval rouge cabré battait au vent. Des douves asséchées défendaient l'accès de la cité, elle-même protégée par trois murs circulaires dotés chacun d'une seule porte surveillée par une citadelle. La flétrissure étant beaucoup moins proche qu'à Kanloum, et le trafic 10 fois plus dense, les sentinelles se montraient peut-être moins vigilantes, mais traverser le pont du soleil levant demandait cependant pas mal de temps. Dans un flot de chariots, de charrettes et de piétons, un double flot en réalité, puisqu'on entrait et sortait par là de la ville, il fallait savoir s'armer de patience. Pour une fois, justement, l'âne semblait en manquer. Une fois à l'intérieur du premier mur, il slaloma entre les véhicules des marchands avec un manque de retenue peu coutumier. Même si Edain l'y attendait, le guerrier n'avait jamais été si heureux d'entrer dans une ville. Strictement parlant, ce n'était pas encore fait, car le deuxième mur était séparé du premier par une centaine de pas, et le troisième, bien plus haut, par une plus grande distance encore. Mais il avait tellement hâte de se débarrasser d'Alice. Par la lumière! Où avait-elle donc trouvé des puces en cette saison? Et des puces noires par-dessus le marché. En principe, il n'aurait pas dû y en avoir avant un mois. Il n'était plus qu'une immense démangeaison ambulante. Mais Alice n'en avait tiré aucune satisfaction, parce qu'il n'avait rien montré.
« Le serment nous engageait jusqu'à Tchatchin, » dit l'âne à sa tourmenteuse. « Et nous y sommes. Si vous évitez les quartiers les plus chauds, vous serez en sécurité comme si 10 gardes du corps ne vous quittaient pas d'un pouce. » Donc je vous convie à vaquer à vos occupations pendant que nous vaquerons aux nôtres. Inutile de sortir votre argent, car nous n'en voulons pas. »
La main de la femme s'immobilisa avant d'avoir atteint sa bourse. Mécontent d'avoir perdu son calme, l'âne se serait volontiers giflé. Mais cette harpie avait multiplié les outrages, et tout homme avait ses limites. Rhine commença aussitôt à déblatérer au sujet des idiots qui offensaient les Aes Sedai. Puis il présenta ses excuses à Alice, faisant de telles courbettes sur sa selle que ses clochettes sonnèrent comme des gongs donnant l'alarme. Non sans raison, il fallait l'admettre, Boukama voit aux gémonies les hommes qui se comportaient encore plus mal que des porcs. Alice regarda si sereinement l'âne qu'il en conçut quelques doutes. Au fond, elle était peut-être bien ce qu'elle prétendait être. Ça vaudrait mieux pour elle, car se faire passer pour une Aes Sedai était une mystification dangereuse. Mais si elle ne mentait pas, il était encore plus urgent de la fuir. Talonnant félin dansant, l'âne galopa dans la grande avenue, au milieu d'une multitude de passants et de quelques cavaliers. En principe, ce comportement aurait dû lui valoir une avalanche de duels, car son hadori et la réputation qui l'accompagnait n'auraient sûrement découragé personne, à part les roturiers. Mais de toute façon, il avançait trop vite pour entendre les imprécations et les défis des gens qu'il frôlait. Évitant les chaises à porteurs, les charrettes à grandes roues des marchands et les divers hommes de peine croulant sous le poids de leurs perches lestées aux deux extrémités, l'âne continua son chemin, un peu étourdi par les bruits de la ville, si tonitruant après le silence de la forêt. Le crissement des roues cerclées de fer sur les pavés, les cris des marchands ambulants et des boutiquiers, le son des flûtes des musiciens des rues, tout lui perçait les tympans. Alors que les odeurs de cacahuètes grillées, de tourtes à la viande, de plats mijotant dans les cuisines des auberges et des particuliers, tout cela mêlé à des effluves bien moins appétissants, lui montaient désagréablement aux narines, après le bon air frais des grands espaces. Sans parler des dizaines d'écuries qui ajoutaient leur puanteur bien particulière à cette symphonie olfactive déjà douteuse. Boukama et Rhine, chargés du cheval de bas, rattrapèrent l'âne alors qu'il était à mi-chemin du palais Aesdaïchar. Ils se placèrent sur les flancs de leur ami, à tout hasard. Si Edain était à Tchatchin, elle résiderait au palais. Ça ne faisait pas de doute. Très judicieusement, les deux hommes gardèrent le silence. Le vétéran, au moins, savait à quoi son protégé allait s'exposer. En un sens, entrer dans la flétrissure aurait été plus facile. Et peut-être même en sortir vivant.
n'importe quel crétin pouvait s'aventurer dans la flétrissure. En venant ici, l'âne se comportait-il comme ces imbéciles? Plus ils montèrent, et plus les trois cavaliers progressèrent lentement. Dans les rues de la haute ville, où les maisons des pauvres cédaient la place aux demeures quasi palatiales des riches marchands et des banquiers, il y avait bien moins de monde, et les musiciens des rues disparaissaient au profit de domestiques en livrée chatoyante, occupés par de mystérieuses missions. Ici, les chariots et les chaises à porteurs étaient remplacés par ces carrosses en bois laqué, arborant les armoiries de nobles maisons. Avec leur attelage de 4 ou 6 chevaux empanachés comme pour un défilé, ces véhicules prenaient beaucoup de place. Et presque tous étaient escortés par une demi-douzaine de cavaliers armés jusqu'aux dents, et résolus à se battre avec tout impudent qui se risquerait à frôler de trop près le précieux fief mobile de leur maître. Surtout quand il s'agissait de traîne misère vêtue comme l'as de pique. Après le voyage, la veste jaune de Rhein ne semblait plus aussi fringante qu'à Canloum. Sa deuxième tenue étant souillée de sang, l'âne avait dû se résigner à porter la troisième. La première, il la réservait pour les grandes occasions. Et ses oripeaux étaient assez usés pour faire passer Boukama pour le prince des élégances. Ses préoccupations vestimentaires orientèrent les pensées de l'âne dans une direction connexe. S'il devait un chien de sa chienne à Alice pour ses tourments, il avait aussi une dette d'honneur relative à la guérison. Et en bon gentilhomme, il était normalement tenu de se soucier exclusivement de cette seconde obligation. Non, non et non. Il devait chasser cette étrange petite femme de son esprit, où elle avait pris une place disproportionnée. Edaine devait occuper toutes ses pensées. Edaine est le combat le plus désespéré de sa vie. Le palais à Esdaïchar annexait tout le sommet plat de la montagne. Avec ses dômes, ses tours et ses hauts balcons, le rouge et le vert comme seule couleur autorisée, ce complexe équivalait à une petite ville. Ses grandes portes de bronze, ornées du cheval rouge émaillé, donnaient accès à la cour des visiteurs par un bref passage sous une arche de tuiles rouges. Mais comme de bien entendu, une dizaine de gardes vinrent barrer le passage à l'âne et à ses compagnons. Le cheval rouge brodé sur le tabac vert recouvrant leur plastron, ces soldats brandissaient des hallebardes, agrémentées de banderoles rouges et vertes. Avec leurs casques et leurs pantalons rouges et leurs cuissardes vertes, ces hommes avaient une allure des plus colorées. Mais il ne fallait surtout pas s'y méprendre. Vétérans endurcis par bien plus d'une bataille, c'étaient de véritables guerriers. Et les regards qu'ils jetèrent aux trois visiteurs auraient glacé les sangs de bien des aventuriers. L'âne mit pied à terre et fit une révérence, pas trop accentuée, avant de se toucher le front puis le cœur, sa main terminant sur le pommeau de son épée.
« Je suis l'âne Mandragoran, » dit-il simplement.
Les sentinelles se détendirent, mais ne s'écartèrent pas sur le champ. Après tout, un homme pouvait lancer au vent n'importe quel nom. Abandonnant ses camarades, un soldat s'éclipsa et revint peu après avec un officier aux cheveux gris qui portait sous le bras son casque à plumet rouge. Baroudeur aguerri, Djourad Shiman avait combattu avec l'âne dans le sud pendant quelque temps. Dès qu'il reconnut le Malkiri, un sourire illumina son visage austère.
« Bienvenue à l'âne Mandragoran, »
dit-il, s'inclinant plus profondément que jamais devant son ancien frère d'armes.
« Taïchar Malkir !»
Eh bien, il n'y avait plus de doute désormais. Si Edain n'était plus à Tchatchin, elle y était passée récemment. Tenant Félin dansant par la bride, l'âne suivit Djourad dans la cour des visiteurs. Malgré lui, il ne put s'empêcher de penser qu'il aurait dû porter son armure et brandir son épée. L'inoffensive promenade qui faisait le tour de la cour lui parut soudain être devenue un repère d'archer, prêt à le cribler de flèches. Une idée ridicule, bien entendu. Les balustrades ouvertes, hautement décoratives, offraient une protection insuffisante à des soldats. Ces balcons étaient faits pour l'accueil en grande pompe des visiteurs importants, pas pour contribuer à la défense. De toute façon, aucun ennemi n'avait jamais franchi le deuxième mur d'enceinte. Et si des trollocs s'enfonçaient un jour si profondément en ville, eh bien tout serait perdu, et il n'y aurait plus rien à faire. Certes, mais Edain était peut-être encore ici, d'où l'incongru sentiment d'avancer au milieu d'un champ de bataille. Des palefreniers en livrée rouge et vert, le cheval cabré brodé sur les épaules, vinrent prendre en charge les montures. Des domestiques vidèrent les paniers du cheval de bas et une femme bien mise conduisit les trois hommes à leurs chambres respectives, allouées en fonction de leur statut. La femme bien mise était la chatayane du palais, une sorte de gouvernante générale, ce qui inquiéta beaucoup l'âne. Très imposante, maîtresse Romera portait en chignon ses cheveux grisonnants, et un gros anneau où pendaient des dizaines de clés annonçait clairement qu'elle dirigeait tous les domestiques du complexe. Mais une chatayane était bien au-dessus du personnel qu'elle chapeautait. En principe, elle se dérangeait exclusivement pour accueillir des têtes couronnées. L'âne comprit qu'il nageait dans les eaux troubles de plans et de complots ourdis par bien des gens. Exactement le genre d'océan où plus d'un homme s'était noyé. Le guerrier accompagna Rhine et Bukama jusqu'à leur fief provisoire et remercia maîtresse Romera de traiter si bien ses amis. En réalité, il ne s'attendait pas à moins, mais il était de son devoir d'accorder plus d'intérêt au confort de ses hommes qu'au sien. Rhine fit la moue. Pourtant, il était assez expérimenté pour n'avoir pas espéré plus qu'une chambre relativement petite, dans la caserne de la garde, la même que Bukama, très exactement. Avec ce qu'il savait du monde, il aurait dû au contraire se réjouir de ne pas être relégué dans un dortoir. La chambre appartenait à un sous-officier, et un four en briques intégré au lit assurait des nuits douillettes à son occupant. Les soldats du rang dormaient par chambrée de 10, et en hiver, ils passaient leur temps à se disputer le lit le plus proche de la cheminée. Bukama prit possession de son fief avec un grand plaisir. Enfin, sans tirer la tête, ce qui pour lui revenait au même. Croisant dans le couloir quelques anciens frères d'armes, il se lança avec eux dans une conversation passionnée sur les pipes et les différentes variétés de tabac. Rhine se remit assez vite de sa déception. Avant même que l'âne reparte, guidé par maîtresse Romera, il était déjà en train d'interroger les soldats au sujet des servantes, était-elle jolie, très jolie ou terriblement jolie, et de l'endroit où il pourrait faire nettoyer et défroisser ses vêtements. Séducteur impénitent, Rhine se souciait beaucoup de son apparence. À vrai dire, il ne supportait pas d'être négligé devant des femmes, quel que soit leur âge ou leur allure. Au fond, sa mauvaise humeur s'expliquait peut-être par sa tenue actuelle souillée de poussière et toute crottée. Se montrer ainsi devant la chatayane et un régiment de servantes n'était sûrement pas pour lui plaire. À son grand soulagement, l'âne ne se fit pas allouer des appartements royaux. Sa suite, composée de 3 pièces, se révéla spacieuse et agréablement décorée. Une série de tapisseries chatoyantes sur les murs bleus et des moulures représentant une chaîne de montagnes au plafond, mais sans aucune ostentation. Et si le mobilier s'avéra abondant et de qualité, les sculptures et les dorures ne sautaient pas aux yeux, comme il aurait pu le redouter. Dotée d'un balcon qui surplombait un des jardins du palais, la chambre abritait un lit au matelas de plumes assez grand pour accueillir 4 ou 5 personnes. Bref, un logement tout à fait adapté au rang de l'âne, qui remercia profusément maîtresse Romera. Un peu trop profusément peut-être, car elle le regarda en souriant, ses yeux noisettes pétillant de malice.
« Nul ne sait jamais ce que l'avenir lui réserve, Seigneur, » dit-elle. « Mais nous savons qui vous êtes. »
Sur ces mots, la chatayane esquissa une révérence, puis elle se retira. Une révérence, même minimaliste, voilà qui en disait long. Malgré ses dires, cette femme de tête avait une idée bien précise de ce que lui réservait l'avenir, aurait-on dit. En même temps qu'il héritait de la suite, l'âne se vit affecter 2 servantes au visage carré, Anya et Esné, qui entreprirent aussitôt de ranger ses chiches d'affaires dans la grande armoire. On le gratifia aussi d'une sorte d'aide de camp, un certain Bulen, qui ouvrit des yeux ronds comme des soucoupes devant son casque et son plastron. Alors qu'il les rangeait sur un râtelier près de la porte, l'âne songea que ce ne devait pourtant pas être le premier qu'il voyait.
« Sa Majesté est ici ?»
demanda l'âne à ses nouveaux adjoints.
« Non, monseigneur, »
répondit Anya. Jetant un coup d'œil révulsé à la veste tachée de sang du guerrier, elle la mit de côté avec un soupir agacé. Ayant les cheveux gris, Anya devait être la mère d'Esné, qui lui ressemblait trait pour trait. Femme d'expérience, elle avait sûrement déjà vu du sang. En revanche, l'idée de devoir nettoyer la veste lui tapait sur les nerfs. L'âne la comprenait, mais, avec un peu de chance, le précieux vêtement lui reviendrait propre et reprisé. Il ne serait pas comme neuf, mais c'était déjà ça de gagné.
« La reine Éteniel est en voyage dans le sud du pays. »
précisa Anya.
Et le prince Brice?
L'âne connaissait la réponse à sa question. En temps de guerre, la reine et le prince consort ne pouvaient pas s'absenter de la ville en même temps. Mais si on voulait être apprécié de son personnel, il fallait savoir le mettre en valeur. Bulen manqua de défaillir à l'idée que le prince Brice puisse être absent en un tel moment. Mais un page comme lui ne pouvait pas encore connaître tous les usages de la cour. En revanche, Anya les maîtrisait sur le bout des ongles. Sinon, on ne l'aurait pas placé au service de l'âne.
« Lui, il est ici, monseigneur, »
répondit-elle, jouant le jeu. S'emparant d'une chemise crasseuse, elle la considéra d'un air dégoûté, puis la posa à l'écart, mais pas avec la veste. Apparemment, elle la jugeait irrécupérable, cette pauvre chemise. Continuant son tri, Anya manifesta un mépris souverain pour toute la garde-robe du guerrier, y compris les pièces qu'elle daigna ranger dans l'armoire. De fait, il n'y avait pas grand-chose de neuf dans le lot.
« Y a-t-il des notables en visite ?
demanda Lan nonchalamment. La question qui le démangeait presque autant que ses piqûres de puce. La mère et la fille se regardèrent.
Une seule personne digne d'être mentionnée, monseigneur,
répondit Anya. Ménageant ses effets, elle prit le temps de plier une chemise et de la ranger dans l'armoire.
Dame Edaine Harel.
Les deux servantes se sourirent, ce qui accentua encore leur ressemblance. À l'évidence, elles savaient depuis le début où Lan voulait en venir, et ça n'avait rien d'étonnant. Et ce n'était pas une raison pour afficher ses sourires béats. Pendant que Bulen s'occupait de cirer ses bottes, Lan se lava de la tête aux pieds, utilisant les guerres plutôt que d'attendre qu'on lui apporte une baignoire. Il appliqua lui-même sur ses cicatrices un baume qu'Anya avait ordonné à Esnay de passer, mais il autorisa les deux femmes à l'aider à s'habiller. C'étaient des domestiques, certes, mais ça ne lui donnait pas le droit de les insulter. Un pantalon noir qui aurait pu passer pour neuf à un ou deux détails près, et compléta sa mise avec une veste de soie noire aux manches brodées de rose jaune avec tiges et épines. Ses fleurs symbolisaient le deuil et le souvenir. Bref, elles étaient parfaitement adaptées aux circonstances. Considérant ses bottes, Lan fut surpris de les voir briller à ce point. Un exploit dont il n'aurait pas cru Bulen capable. Eh bien, en un sens, il portait la meilleure armure imaginable. Mais les armes des Dane n'étaient pas en acier. Dans le type de duel qu'il allait à présent disputer, Lan Mandragoran était un néophyte. Après avoir remis un sou d'argent à chaque femme et une piécette de cuivre à Bulen, maîtresse Romera aurait été outragée qu'il lui donne un pourboire, mais les serviteurs d'un hôte de passage s'attendaient à une gratification le premier et le dernier jour, Lan envoya son aide de camp s'assurer que les palefreniers suivaient à la lettre ses instructions concernant Félin d'Encens. Ensuite, il demanda aux deux femmes de garder sa porte. Puis il s'assit et attendit. Sa rencontre avec Edaine devait avoir autant de témoins que possible. Dans l'intimité, la carneira d'un homme disposait de tous les atouts. À sa grande surprise, Lan songea à Alice. Où était-elle allée? Et que lui voulait-elle, ainsi qu'à ses compagnons? Et... allons, il devait la chasser de ses pensées. Même absente, cette femme lui collait au basque, semblait-il. Un pichet de vin et un carafon d'infusion aromatisé à la menthe et aux framboises attendaient son bon vouloir sur une table basse, mais il les ignora. Il n'avait pas soif, ce qui excluait l'infusion. Quant au vin, face à Edaine, il entendait avoir les idées claires. Immobile comme une statue, Lan invoqua le Cody, se vidant de toutes ses émotions. Avant une bataille, c'était toujours préférable. Très peu de temps après en être sorti, Anya revint dans la chambre, refermant soigneusement la porte derrière elle.
« Monseigneur, Dame Edaine a envoyé un messager requérir que vous vous présentiez dans ses appartements. »
Le ton neutre, la servante était aussi impassible qu'une Aes Sedai.
« Réponds-lui que je ne suis pas encore reposé des rigueurs du voyage, » dit Lan.
L'air déçu, Anya s'inclina et sortit. La courtoisie exigeait qu'on lui laisse tout le temps qu'il voudrait pour récupérer. Mais moins d'une demi-heure plus tard, comme en témoignait l'horloge dorée posée sur le manteau de la cheminée, Anya revint avec une lettre pour Lan. Le sceau en cire bleue représentait une lionne ramassée sur elle-même pour bondir sur une proie. Le symbole personnel d'Edaine, parfaitement adapté à sa nature profonde. Lan brisa le sceau et lut la missive, au demeurant très courte.
« Viens me voir, mon doux ami. Viens tout de suite. »
Pas de signature. Mais Lan aurait reconnu l'auteur de ces mots, même avec un sceau de cire anonyme. Car l'écriture sophistiquée des Danes lui était tout aussi familière que la sienne, dépourvue de toute fioriture, bien entendu. La lettre ressemblait bien à Edaine. Cette femme était née pour être reine, et elle le savait. Lan confia la missive aux flammes qui crépitaient dans la cheminée. Cette fois, la déception d'Anya fut patente. Par la lumière, cette domestique était à son service. Mais Edaine avait en elle une alliée inconditionnelle. Le savait-elle? Très probablement, car rien de ce qui pouvait lui être utile ne lui échappait. Plus rien ne vint d'Edaine. En revanche, alors que l'horloge sonnait 3 heures, maîtresse Romera passa à son tour à l'offensive.
« Monseigneur,
demanda-t-elle,
êtes-vous assez reposé pour être reçu par le prince consort ?»
Être escorté par la chatayane était un honneur, certes, mais tous les visiteurs avaient besoin d'un guide pour ne pas se perdre dans le palais. Même s'il était venu plusieurs fois, Lan s'était perdu à chacun de ses séjours. Son épée pendait au râtelier, avec son casque et son plastron. Dans les circonstances présentes, une arme ne lui aurait pas servi à grand-chose, sinon à insulter Brice en affichant de la méfiance. Lan avait pourtant bel et bien besoin de se défendre, mais l'acier ne pouvait rien pour lui. Alors qu'il espérait avoir droit à une audience privée, maîtresse Romera le conduisit dans une grande salle, surmontée d'un dôme peint pour imiter le ciel. Au milieu d'un cercle de colonnes blanches, une petite foule se pressait sur le sol de marbre. Dès que l'âne entra, le murmure des conversations mourut. À croire qu'il n'était pas vraiment le bienvenu. Portant des plateaux lestés de gobelets de vin aux épices, une spécialité du Condor, des serviteurs des deux sexes, souples et lestes, slalomaient entre les seigneurs, les nobles dames et les représentants des principales guildes. Il y avait aussi d'autres invités, et des plus remarquables. Des hommes en redingote arborant le hadori, que l'âne ne leur avait plus vu porter depuis au bas mot une décennie. Et des femmes aux cheveux coupés au niveau des épaules, voire plus haut, avec sur le front le petit point rond qu'on appelait le kisein. Ces hommes et ces femmes, enfin décidés à se souvenir du Malkier, s'inclinèrent devant l'âne, puis, tel un hibou observant une souris, ils regardèrent maîtresse Romera le présenter à Brice. Ces hiboux, songea l'âne, semblaient prêts à prendre leur envol pour fondre sur une proie. Ils n'auraient peut-être jamais dû venir ici. Mais c'était trop tard désormais. Ils ne pouvaient plus qu'avancer, ou que ses pas le conduisent. Taillé tout en muscles, le prince Brice semblait davantage fait pour porter une armure que pour parader dans des habits de soie verte. En réalité, il était aussi à l'aise dans les deux. C'était le bras armé d'Étaniel, le chef de son armée et son époux. Mais il ne devait pas son titre et sa fonction au fait d'avoir épousé la reine. Ses états de service parlaient pour lui, et ils étaient hors du commun. Il prit l'âne par l'épaule, l'empêchant de s'incliner.
« Je ne veux pas de ça venant de l'homme qui m'a par deux fois sauvé la vie, dans la flétrissure. Prince, nous sommes quittes, parce que tu as sauvé deux fois la mienne. »«
Eh bien, voilà qui est parfait. »«
Oui, parfait. » »«
En venant ici, tu sembles avoir transmis une partie de ta chance à Diric. Ce matin, il est tombé d'un balcon, une chute de 50 pieds sur les pavés. Et il s'en est sorti sans une fracture. »
Brice fit signe à son deuxième fils, un garçon de fort belle allure d'environ 8 ans, vêtu de la même façon que son père. L'enfant approcha d'un pas hésitant, comme s'il avait mal un peu partout. Et il avait une grosse bosse sur le front, mais il se fendit pourtant d'une profonde révérence et d'un grand sourire peut-être à rien déplacé.
« Il devrait suivre ses cours, » souffla Brice. « Mais il était si impatient de te voir qu'il aurait oublié son alphabet et qu'il se serait coupé avec son épée. »
Vexé, Diric affirma qu'il n'était pas du genre à se couper. L'âne rendit sa révérence à l'enfant. Mais pour le fils du prince, l'heure du protocole était déjà passée.
« Seigneur, on dit que tu as combattu les Aiel dans le sud et sur les marches du Chienard. C'est la vérité? Font-ils vraiment 10 pieds de hauteur? Et se voilent-ils le visage avant de tuer? On dit qu'ils mangent leurs morts. Au fait, la tour blanche est-elle pour de bon plus grande qu'une montagne ?»«
Diric, laisse-lui le temps de répondre, »
intervint Brice, amusé par ce bombardement en règle. Le gamin rougit d'embarras, mais il fit quand même un sourire plein d'affection à son père, qui lui ébouriffa tendrement les cheveux.
« Souviens-toi de tes 8 ans, Brice !» s'écria l'âne. « Et laisse-le donc exprimer son enthousiasme !»
À 8 ans, l'âne s'entraînait au Cody et se préparait mentalement à ce qu'il devrait affronter dans la flétrissure. Accessoirement, il apprenait à tuer avec les mains et les pieds. Que Diric est donc une enfant heureuse, avant de devoir à son tour penser au massacre et à la mort. Se sentant soutenu, l'enfant débita un nouveau chapelet de questions. Mais cette fois, il attendit les réponses. Si on l'avait laissé faire, il aurait écouté pendant des heures les récits de l'âne sur les Aiel et les extraordinaires cités du sud telles que Tarvalon et Pharmading. Mais Brice intervint assez vite.
« Le seigneur Mandragoran te régalera plus tard de ces histoires, mon fils. Pour l'heure, il doit rencontrer quelqu'un. Retourne donc à tes leçons avec maîtresse Tuval. »
Alors que Brice et lui traversaient le sol dallé de rouge et de vert, l'âne eut le sentiment que la salle entière retenait son souffle. Et Dane était exactement comme dans son souvenir. Avec 10 ans de plus, bien sûr. Mais si ses tempes grisonnaient un peu, des ridules apparaissant au coin de ses yeux quand elle souriait, son regard restait aussi fascinant. Son kisein était toujours blanc, le symbole du veuvage. Et sa crinière cascadait toujours jusqu'à sa taille, voire un peu plus bas. Dans une robe de soie rouge à la mode d'Omani, une transparence délicieuse pour les yeux, elle restait d'une beauté à couper le souffle. Et dans cette salle, elle était provisoirement neutralisée. L'âne exécuta une impeccable révérence.
« Tout aurait été plus facile si tu avais répondu à mon invitation, »
dit-elle, sans se soucier que Brice l'entende. Contre toute attente, elle s'agenouilla avec grâce et prit les mains de l'âne entre les siennes.
« Au nom de la lumière, »
dit-elle d'une voix forte et claire,
« moi, Edain Tigemalen Arel, je jure allégeance à Allan Mandragoran, l'authentique lame du Malkier,
seigneur des sept tours et des mille lacs. Puisse-t-il tailler en pièces les ténèbres ?
Brice lui-même parut décontenancé. Dans un silence parfait, Edain embrassa les doigts de l'âne. Dès qu'elle eut fini, des vivates éclatèrent de toutes parts.
« Honneur à la Grue Dorée ! Le Candor au côté du Malkaire !»
Les cris le ramenant à la réalité, l'âne aida Edain à se relever, l'attirant délicatement vers le haut.
« Madame, dit-il d'un ton serein mais grave, il n'y a pas de roi du Malkaire. Les grands seigneurs n'ont pas fait leur choix. »
Edain posa une main sur les lèvres de l'âne. Sa peau était si chaude.
« Trois des cinq grands seigneurs survivants sont présents dans cette salle, l'âne. Veux-tu que nous leur demandions pour qui ils voteraient ? Ce qui doit être sera. »
Sur ces mots, Edain se fendit dans la foule de courtisans, pressés de saluer l'âne et de lui jurer allégeance à leur tour, s'il la laissait faire. Brice vola au secours de son ami. L'arrachant à ses admirateurs, il l'entraîna jusqu'à une longue promenade, munie d'une balustrade de pierre. Offrant une vue imprenable sur les toits de tuiles, 200 pieds plus bas, ce lieu était en quelque sorte le boudoir de Brice, et personne ne se serait aventuré à l'y suivre. Il n'y avait qu'une entrée, aucune fenêtre en hauteur d'où on aurait pu espionner, et les sons du palais n'y étaient pas audibles. Les mains croisées dans le dos, les deux hommes commencèrent à faire les 100 pas.
« Si j'avais su ce qu'elle manigançait, dit Brice, je ne lui aurais jamais offert l'hospitalité. Si tu le désires, je lui ferai savoir qu'elle n'est plus la bienvenue ici. L'âne, ne me regarde pas comme ça. Je suis assez au fait des coutumes du Malkaire pour ne pas l'insulter.
Mais elle t'a enfermé avant de clouer le couvercle, dans une boîte que tu n'aurais jamais choisie toi-même. »
Brice en savait moins long qu'il le croyait. Quelques précautions oratoires qu'il prenne, priver Edain de son hospitalité, serait une insulte mortelle.
« Même les montagnes s'érodent avec le temps, »
cita l'âne. Désormais, il n'était plus sûr d'éviter de devoir conduire des hommes dans la flétrissure. Et il ne savait plus trop s'il tenait tant que ça à ne pas le faire. Ces hommes et ces femmes se souvenaient du Malkaire, un pays qui méritait de ne pas sombrer dans l'oubli. Mais à quel prix ?
« Que vas-tu faire ? » demanda Brice.
Une question très simple. Hélas, la réponse, elle, ne l'était pas.
« Je n'en sais rien, » avoua l'âne.
Edain n'avait remporté qu'une escarmouche, mais avec une facilité stupéfiante. La femme qui portait dans ses cheveux une partie de son âme était un adversaire redoutable. Avant de se séparer, les deux hommes parlèrent de parties de chasse et des bandits, qui devenaient de plus en plus audacieux. Puis ils se demandèrent si l'effervescence, constatée dans la flétrissure depuis un an, se calmerait bientôt. Brice regrettait d'avoir dû retirer ses forces de la guerre contre les Aiels, mais ils n'avaient pas eu le choix. Ils évoquèrent des rumeurs, au sujet d'un homme capable de canaliser le pouvoir. À les entendre, il était partout en même temps. Brice tenait tout ça pour des foutaises, et l'âne ne le contredit pas. Les Aes Sedai, elles, étaient pour de bon présentes partout, et nul ne savait pourquoi. Dans une de ses lettres, Ethaniel parlait de deux Aes Sedai, qui avaient capturé une femme prétendant être une des leurs. Elle était en mesure de canaliser, mais ça ne lui avait pas servi à grand-chose. Les sœurs l'avaient fouettée, puis traînée dans tout le village en la forçant à avouer son imposture à tous les habitants. Puis une des Aes Sedai l'avait conduite à Tarvalon pour qu'elle reçoive son vrai châtiment, quoi que ça puisse être. L'âne espéra qu'Alice ne mentait pas quand elle affirmait être une sœur. Aussitôt après, il se demanda ce que ça pouvait bien lui faire. Il espérait aussi éviter Edain jusqu'à la fin de la journée, mais les choses ne tournèrent pas comme il l'aurait voulu. Quand un serviteur l'eut raccompagné jusqu'à sa suite, il y trouva son ancienne maîtresse, langoureusement installée, dans un des fauteuils du salon. Bien entendu, les servantes n'étaient nulle part en vue. L'alliance entre Anya et Edain se confirmait.
« Tu n'es plus beau du tout, mon doux ami, » dit Edain, lorsque l'âne fut entré. « Avec les années, je crains même que tu deviennes laid, mais j'ai toujours préféré tes yeux à tes traits. »
Elle eut un sourire lascif.
« Et tes mains ?»
L'âne se pétrifia, la main toujours sur la poignée de la porte.
« Madame, il y a moins de 2 heures, tu as juré de... »«
Oui, oui, mon doux ami, et j'obéirai à mon roi. Mais tu connais le proverbe. Seul avec sa carneïra, un roi n'est plus un roi. »
Edain eut un rire de gorge. Elle savourait le pouvoir qu'elle gardait sur l'âne, c'était visible.
« Je t'ai apporté ton daori. Prends-le et donne-le-moi. »
Malgré lui, l'âne suivit le regard d'Edain et ses yeux se rivèrent sur la boîte laquée posée sur une table basse près de la porte. Soulevé le couvercle,
lui demanda plus d'efforts que déplacer un rocher. Dans la boîte, une corde tressée avec des cheveux lui rappela des souvenirs qu'il aurait voulu ne pas réveiller en cet instant précis. Le matin de leur première nuit, Edain l'avait emmené dans le quartier des femmes du palais royal, à Falmoran, où elle lui avait fait couper les cheveux à la hauteur des épaules. Pendant que des dames de compagnie et des servantes jouaient les coiffeuses, elle lui avait expliqué le sens de ce rituel. Tandis qu'il tressait le Daori, assis au pied de sa carneira, les complices d'Edain ne s'étaient pas privés de l'accabler de l'adzi. Edain perpétuait les coutumes, mais à sa façon. Les prenant en main, Lan constata que les cheveux étaient toujours doux et souples. Elle les avait sûrement traités chaque jour avec quelques lotions. Avançant lentement, Lan s'agenouilla devant Edain et lui tendit le Daori.
En témoignage de ce que je te dois, Edain, maintenant et pour toujours.
La ferveur de ce premier matin manquait sûrement à sa voix, mais elle comprendrait, sans nul doute. Edain ne prit pas le Daori. En revanche, elle étudia Lan, comme une lionne qui évalue une gazelle.
Je sais que tu n'es pas parti assez longtemps pour avoir oublié nos coutumes, dit-elle. Viens.
Se levant, elle saisit Lan par les poignets, le forçant à la suivre jusqu'à la porte du balcon. Dans le jardin, 30 pieds plus bas, des serviteurs arrosaient des plantes choisies avec un grand soin. Un peu plus loin, une jeune femme en robe bleue se promenait sur un sentier, en admirant les fleurs nouvelles qui poussaient au pied des arbres.
C'est ma fille, Isel.
Un moment, fierté et affection adoucirent le ton d'Edain.
Tu te souviens d'elle? Elle a 17 ans, sais-tu? Et elle n'a pas encore choisi son carneira.
Les jeunes hommes étaient choisis par leur carneira. Les jeunes filles, elles, le sélectionnaient.
Mais il est temps qu'elle se marie, selon moi.
Lan se souvint vaguement d'une enfant, sans cesse entourée de servantes, la prunelle des yeux de sa mère. Mais à l'époque, il n'avait de pensée que pour Edain. Et ça recommençait, son parfum lui montant à la tête comme une ivresse.
« Elle doit être aussi belle que sa mère, » dit poliment Lan.
Il fit tourner le Daori entre ses mains. Tant qu'il le tiendrait, Edain aurait un avantage écrasant sur lui. Mais elle allait devoir le lui prendre.
« Edain, nous devons parler. »
La lionne ignora cette remarque.
« Et toi aussi, tu devrais te marier, mon doux ami. Aucune de tes parentes n'étant vivante, c'est à moi de prendre les dispositions qui s'imposent. »
Edain eut un sourire plein d'amour maternel à l'intention de la jeune fille en robe bleue. Lan n'en crut d'abord pas ses oreilles. Pourtant, c'était limpide.
« Isel, croissa-t-il, tu veux que j'épouse ta fille ?»
Edain perpétuait peut-être les coutumes à sa façon, mais là, c'était scandaleux.
« Je ne me laisserai pas entraîner dans une telle infamie, Edain. Ni par toi, ni par cette relique. »
Il brandit rageusement le Daori, mais la lionne se contenta de sourire.
« Bien sûr que tu ne te laisseras pas entraîner, mon doux ami. Tu es un homme, plus un gamin, mais tu perpétues les coutumes. »
Mutine, Edain laissa courir un index le long du Daori, qui tremblait entre les mains de Lan.
« Tu as raison. Nous avons peut-être besoin de parler. »
Mais Edain guida Lan jusqu'au lit. Qu'elle lui prenne le Daori ou pas, il y regagnerait au moins une partie du terrain perdu, car il était un homme, pas une gazelle, toute lionne qu'elle fût. Cela dit, il ne fut pas surpris quand elle lui dit qu'il pouvait poser le Daori sur le lit afin de l'aider à se déshabiller. Fidèle à elle-même, Edain n'était pas du genre à se priver d'un avantage. Du moins, jusqu'au moment où elle offrirait le Daori à la promise de Lan, le jour du mariage. Et cette promise serait Isel. C'était inévitable, parce que les coutumes le voulaient.